Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Olivier Roux.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Vous le savez probablement, emprisonné le 19 novembre dernier à Tokyo, accusé de malversations nombreuses, un des chefs d'entreprise les plus emblématiques de ces dernières décennies, le patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a retrouvé une liberté limitée mercredi dernier, 6 mars 2019. Carlos Ghosn était au firmament du monde patronal japonais. Sa chute est l'occasion de nous pencher sur ce Japon industriel qui a eu besoin d'un manager étranger et sur cette économie japonaise confrontée à l'irruption dans son étranger proche du colosse chinois. En résumé, comment se comporte l'économie japonaise dans la révolution technologique actuelle et comment cet archipel a-t-il digéré la mondialisation ? Telles sont les questions que nous allons aborder avec deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Cynthia Kalasopatane.
Bonjour.
Cynthia Kalasopatane, vous êtes économiste à Rexecode, un institut d'études économiques privées et indépendant. Avant d'intégrer cette équipe, vous avez longtemps vécu en Asie, en particulier à Singapour, où vous travailliez au sein de la banque Mizuho, une des trois banques géantes japonaises. Vous avez fait vos études de doctorat à l'université Aix-Marseille, où vos pas ont croisé ceux de notre second invité, Gilles Dufresneau. Bonjour Gilles Dufresneau.
Bonjour Jean-Pierre.
Gilles Dufresneau, vous êtes donc professeur d'économie à l'université Aix-Marseille. Marseille, vous êtes aussi membre de l'école d'économie. On vous retrouve par ailleurs au CEPI, un des grands think tanks économiques parisiens. Vous avez été de 2004 à 2008 conseiller du commissaire chargé des politiques économiques au sein de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et vous venez de passer quelques semaines en mission à Osaka, une des grandes villes japonaises. Le Japon, d'où nous viendrons au cours de cette émission des reportages signés Bruno Duval. Nous aborderons aussi, avec un reportage signé Charlotte Simonard à Nairobi, les relations économiques entre le Japon et le continent africain. Gilles Dufresneau, vous étiez au Japon juste après l'arrestation de Carlos Ghosn, le patron emblématique de Renault-Nissan. Comment l'économiste français que vous êtes, qui s'intéresse au monde économique qui nous entoure, a-t-il analysé, interprété, ressenti cet événement ?
Alors écoutez, bon, bien évidemment, sur le fond de l'affaire lui-même, on ne peut pas dire grand-chose, mais en revanche, il y a un point qui me semble important, c'est que l'industrie automobile japonaise est une industrie stratégique, notamment pour le ministère de l'économie et pour le ministère de l'industrie. Et je pense que avoir pensé qu'il était possible de définir une structure entre Nissan et Renault, je pense que c'était une erreur stratégique
De Carlos Ghosn.
Oui, je crois. Mais je sais, évidemment, c'est très compliqué de savoir si c'est lié, mais en tout cas, il y a une coïncidence
au moins temporelle. À cause du nationalisme japonais, on brasse.
Pas simplement à cause du nationalisme, parce que le secteur automobile, c'est vraiment l'ossature de la construction industrielle du Japon, et c'est un secteur qui est au moins aussi stratégique que le secteur de la défense. Donc, effectivement, c'est pour un État stratège, pour un État industriel, c'est très important.
Cynthia Kalasopatane, est-ce que les chefs d'entreprise japonais occupent une place particulière dans la société ? Est-ce qu'ils sont révérés au sommet de la hiérarchie sociale et admirer
Tout à fait. En tout cas, les chefs d'entreprise occupent une place très importante donc au sein de la société japonaise. Notamment, on a vu à plusieurs reprises les entreprises japonaises à la fois, oui, d'une part révérées et adulées, mais quand il y a des erreurs, il y a aussi un petit peu ce revers de la médaille où ils doivent venir s'excuser en public.
C'est-à-dire venir devant la presse
devant
et faire
la presse
s'incliner.
Et s'incliner.
On a en tête ces images-là.
Exactement.
Alors, on va faire un peu d'histoire et rappeler d'où vient le Japon, parce qu'il n'y a pas que Carlos Ghosn ces dernières années. L'histoire économique du Japon est très ancienne. On va se limiter peut-être à la dernière étape. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, fin 1945, le Japon est détruit, il y a deux bombes atomiques, il ne reste plus rien de ce pays, de cette économie. Comment est-ce qu'il s'est reconstruit, Gilles Dufresneau, le Japon ?
Alors, il y a eu trois phases importantes. La première phase, c'est que le Japon, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, est occupé par les Américains, le général MacArthur, jusqu'en 1952. Mais les Japonais vont dans un premier temps réutiliser ce qui avait fait leur force avant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire toute cette structure industrielle, les aibatsu, le secteur bancaire qui est important. Donc ils vont s'appuyer dessus. L'occupant américain va mettre en place un certain nombre de lois pour essayer de supprimer ça, parce que les Américains pensaient que c'est ce qui avait été à l'origine du nationalisme, qui avait conduit à la guerre. Et ce que vont faire les Japonais, c'est qu'ils vont un petit peu changer la structure. Malgré le démantèlement des aibatsu, ils vont, les entreprises vont avoir des espèces de participations croisées, beaucoup, et puis avec un secteur bancaire qui va venir en aide. Il y a deux choses qui ont été importantes. La première, c'était que les Américains, il y a eu ce qu'on appelait le plan Dodge, a eu comme conséquence de verrouiller le taux de change du yen. Le yen a été sous-évalué. C'est ce qui a permis, en fait, aux Japonais d'être très compétitifs à l'étranger. Et bien sûr, la guerre de Corée, qui est un événement qui va complètement booster, en fait, l'industrie, toutes les industries, en fait, au Japon.
Bon, donc, la guerre de Corée, il faut le rappeler, c'est en 1950.
Donc, entre 1950 et 1953.
Ouais.
Les Japonais vont être en quelque sorte les sous-traitants des Américains. Ils vont fabriquer des véhicules. Ça va stimuler le secteur de la métallurgie, de la sidérurgie, de l'acier. Bon, donc, c'est quelque chose qui a... C'est un événement, bon, un choc géopolitique, mais qui va stimuler leur industrie.
Cynthia Kalasopatane, vous, comment le Japon est-il émergé comme troisième puissance ou deuxième à l'époque puissance économique mondiale?
Alors le Japon a émergé par rapport à une stratégie tournée vers les exportations. Donc on se souvient dans les années 80, le Japon exporte des biens électroniques. Donc et on se souvient des produits électroménagers made in Japan. Donc Sony, Panasonic, Panasonic. Et aussi toutes les marques de voitures, dont Toyota, Honda, donc que tous les ménages...
Mitsubishi et d'autres.
Et d'autres, tout à fait.
Et ces grandes marques, ce sont toujours des conglomérats
Ce sont des conglomérats japonais. Et la stratégie japonaise, de construire des gros conglomérats et ensuite d'avoir cette puissance pour pouvoir, aller à la conquête des marchés extérieurs.
Est-ce que l'industrie japonaise est toujours aussi rayonnante aujourd'hui qu'elle l'était il y a 20 ans?
Alors, ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que dans les années 80, dans les années 90, le Japon connaît une crise financière, c'est-à-dire sur le plan domestique, qui résulte à la fois de cette appréciation du yen qui se fait en 1985, ce qui fait que...
Vous faites allusion là à ce que disait Gilles Dufresneau tout à l'heure, c'est-à-dire l'arrimage du yen et du dollar. Se termine
et le commerce, les exportations vers les États-Unis deviennent à un tel niveau que il y a une balance bilatérale qui devient fortement excédentaire, c'est-à-dire en faveur du Japon. Et on se souvient à cette époque, dans les années 80, où les États-Unis menacent le Japon de mesures tarifaires et
les droits de douane,
à l'encontre du Japon. Et à ce moment-là, le Japon prend aussi l'engagement, dans le cadre de l'accord de Plaza, d'apprécier le yen. Donc, appréciation du yen entraîne une perte de compétitivité pour les entreprises japonaises qui étaient fortement tournées vers l'exportation. Donc, ce qui fait que ça plus la crise que connaît le Japon finalement affaiblit.
À quelle crise faites-vous allusion là ?
La crise dans les années 90, c'est-à-dire où il y a l'éclatement à la fois de la bulle immobilière au Japon, il y a
Une crise bancaire, oui, c'était terrible. C'est une crise. Au départ, c'était une crise financière, qui est une grosse crise de bancaire. L'explosion de bulles sur les marchés immobiliers qui va conduire pendant 10 ans à ce qu'on appelait la décennie perdue. Au Japon, qui va vraiment affecter la croissance potentielle du Japon, qui va avoir des effets déflationnistes. qui va conduire à un appauvrissement de la population. Enfin, on en parlera sans aucun doute
tout à l'heure. Bien sûr, on va en parler.
Donc, c'est vraiment une crise qui a durablement marqué le Japon, qui a conduit à un affaissement de sa croissance potentielle. Et il va falloir attendre la décennie à partir entre 2000 et 2007 avant qu'il y ait un rebond, enfin, qu'il y ait un début de rebond.
Alors aujourd'hui, les chiffres du chômage au Japon seraient de nature à faire pâlir d'envie tous les dirigeants français. 2,5% de la population active qui est au chômage, c'est vraiment très très peu. Et en fait, ce n'est pas assez parce que cela reflète une réelle pénurie de main-d'œuvre, la plus grave depuis 50 ans. Au Japon, une entreprise sur deux est en sous-effectif et ne trouve pas de personnel. Un phénomène qui affecte la vie quotidienne des Japonais, c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Bruno Duval à Tokyo.
Ici, des offres d'embauche sont affichées à la vitrine de la plupart des commerces, qui de plus en plus invitent leurs clients à régler non en liquide, mais par carte ou par téléphone, car ne pas devoir rendre la monnaie fait gagner un temps précieux à leur personnel, qui est en sous-effectif, donc débordé. Des fast-food ou des karaokés qui avaient toujours ouvert 24 heures sur 24 en viennent à fermer une heure ou deux à l'aube, faute de personnel. La Poste, à cause du manque de facteurs, envisage de ne plus distribuer le courrier le samedi. Et des sociétés de déménagement ou de livraison à domicile ont augmenté leurs tarifs pour compenser l'envolée de leurs coûts salariaux. Elles se ruinent en heures supplémentaires. Les journées de travail à rallonge et sous tension, c'est le lot de ces deux tokyoïtes, respectivement aides-soignants et employés de bureau.
Avant, je prenais mon service à 9h30 du matin, mais là, maintenant, c'est dès 7h. C'est la seule solution, vu qu'on est si peu nombreux. Sinon, on n'arriverait pas à faire tout le boulot. Ce nouveau rythme de travail, cela m'épuise, d'autant que le soir, je rentre à la maison beaucoup plus tard qu'avant.
Chez nous aussi, on est en sous-effectif. Avant, quand un de mes enfants tombait malade, je pouvais téléphoner au boulot le matin même pour prévenir que je serais absente. Mais à présent, je ne peux plus poser comme ça un jour de congé à la dernière minute.
Pour les employeurs aussi, cette pénurie de main-d'œuvre est pénible à gérer. Écoutez ce boulanger-pâtissier.
On est noyé de travail. Ma priorité, ce sont les clients, donc je ne veux pas réduire nos heures d'ouverture. Mais d'un autre côté, je dois aussi veiller à ménager un peu mes employés, parce que s'ils finissent par claquer la porte, j'aurai bien du mal à leur trouver des remplaçants. Donc aux vacances de printemps, par exemple, je ne prendrai pas de congé pour que mon personnel, lui au moins, puisse un peu se reposer. Vivement qu'on ne soit plus en sous-effectif.
Beaucoup d'employeurs ne sont pas aussi compréhensifs envers leur personnel que cet homme. L'an dernier, 72 000 cas de harcèlement moral au travail ont été signalés aux affaires sociales. C'est un record historique. Car les effectifs diminuent, mais le travail, lui, ne se réduit pas. Donc les employeurs traquent le moindre temps perdu par leur personnel. Dernièrement, des salariés ont été sanctionnés pour 2 minutes de pause déjeuner en trop par rapport au règlement ou pour des pauses cigarettes un peu trop fréquentes. Dans un contexte aussi tendu, le karoshi fait des ravages. Ce terme signifie le décès dû au surmenage professionnel. Chaque année, 2 à 300 Japonais meurent d'avoir trop travaillé, victimes soit d'un accident fatal de santé survenu au bureau, un AVC, un infarctus, etc., soit d'un suicide directement lié à leur emploi.
Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Bruno Duval à Tokyo. Se tuer au travail au Japon, c'est pas simplement une image, c'est une réalité. Qu'est-ce qui explique, Cynthia Kalasopatane, cette pénurie de main-d'œuvre?
Bien, cette pénurie de main-d'œuvre vient avant tout du vieillissement de la population. La population japonaise a atteint un pic en 2010. Il y a environ 128 millions de Japonais. Donc, ce pic avait été atteint en 2010. Et aujourd'hui, en 2018, on est à environ 126 millions. Donc, on a perdu environ 1,quelques millions d'habitants. Donc, ce qui fait que, oui, il y a cette pénurie de main-d'œuvre qui vient de vieillissement de la population.
C'est-à-dire que les gens vieillissent et il n'y a pas de renouvellement des générations, Gilles Dufresneau.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et le Japon a en plus un problème, c'est que ce n'est pas un pays qui favorise l'immigration. Il y a pour maintenir une certaine harmonisation sociale, pour des raisons culturelles. Donc ils ont ce frein-là, donc il y a très peu de migrants, de personnes qui migrent pour travailler. Et effectivement, la proportion ils ont ce vieillissement des 15 plus de 75 ans, pardon, qui augmentait considérablement. Donc, effectivement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que la difficulté, c'est celle-là. Ben, ils ont en fait un seul levier, c'est d'augmenter la productivité du travail, parce que toutes les prédictions montrent que à productivité constante, la production du Japon diminuerait. Donc ils n'ont pas de choix, ils sont obligés d'augmenter assez fortement la productivité du travail. Et l'augmentation de la productivité du travail, ça donne, par exemple, le fait que vous avez beaucoup de personnes qui font des heures supplémentaires, beaucoup de personnes qui ne prennent pas de congés. Donc le phénomène de karoshi est partout, y compris dans les universités. Moi, j'étais à l'université d'Osaka, et donc on a des collègues japonais qui meurent au travail parce que justement,
ils sont en cours de 8h du matin à 10h du soir.
Et puis ils sont aussi là la nuit, ils ont leur lit. Moi, j'étais dans un bureau, le collègue avait son lit. Donc voilà, le karoshi, c'est vraiment une réalité.
Le karoshi, c'est le surmenage.
C'est le surmenage, et puis qui entraîne la mort par infarctus.
Oui, c'est le cas.
Si je peux juste apporter quelques remarques supplémentaires. En fait, cette pénurie de main-d'œuvre a été quelque part palliée par plusieurs choses. C'est-à-dire que dans l'immédiat, comment le Japon a réagi face à cette pénurie de main-d'œuvre? Eh bien, il y a eu recours à du travail temporaire, c'est-à-dire ou à du travail, c'est-à-dire par des contrats. C'est-à-dire il y a cette dualité sur le marché du travail japonais qui est d'une part avec des travailleurs titulaires, c'est-à-dire ce sont des travailleurs qui sont à vie, embauchés à vie dans les entreprises, même que ce soit dans le secteur privé ou public. Et puis il y a à la fois de l'autre côté donc des travailleurs non titulaires. Les travailleurs non titulaires qui représentent aujourd'hui 40% de l'ensemble des contrats dans le Japon, donc ce qui est énorme. Et en fait, cette pénurie sur le marché du travail s'est traduite par une augmentation de ces contrats non titulaires au Japon.
Alors on va en parler justement avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval. Comme vous le dites, Cynthia Kalasopatane, l'image qui a longtemps prévalu concernant les salariés nippons, c'était celle de nuées d'employés en costume cravate qui chaque matin se rendaient au bureau en rang discipliné. C'est un cliché, et ça l'est encore plus, car dans le Japon de ce 21e siècle, plus d'un salarié sur trois n'a qu'un emploi précaire, c'est ce que vous nous dites, ce qui veut dire aussi sous-payé. Et parmi ces précaires, il y a beaucoup de jeunes. Ce phénomène s'est largement amplifié depuis 20 ans. Un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé donc Bruno Duval à Tokyo.
8 millions de Japonais sont au salaire minimum, 880 yens bruts de l'heure en moyenne, même pas 7 euros. Depuis 2015, les travailleurs précaires se mobilisent pour obtenir une hausse de ce salaire, sur le modèle du mouvement mené il y a quelques années aux États-Unis par les jeunes travaillant dans le secteur de la restauration rapide. Un SMIC à 1500 yens, les précaires japonais battent le pavé pour l'obtenir, comme ici à Tokyo.
Il faut augmenter le salaire minimum. On est si mal payé qu'on n'a même pas les moyens d'aller au cinéma, ni même au snack du coin pour manger des nouilles ou un curry entre copains. Et qu'est-ce que ce sera demain? Avec un salaire pareil, comment fonder une famille? Avoir une maison, acheter une voiture ou payer les études des gosses? C'est impossible. Des millions de Japonais n'ont aucun avenir à cause de ces salaires aussi bas. Bougeons-nous tous ensemble pour que ça change.
Dans ces cortèges, il y a toujours beaucoup de femmes, car 6 Japonaises sur 10 n'ont qu'un emploi sous-statutaire. C'est 2 fois plus que les hommes.
Moi aussi, comme vous tous, depuis que je travaille, j'enchaîne les emplois précaires, plus ingrats les uns que les autres. Malgré tout, je m'accroche et je donne le maximum, parce que je me souviens bien que c'était la promesse que je m'étais faite quand j'étais gamine. Être épanouie et compétente au boulot. Mais là, les années passent et petit à petit, mes rêves s'évanouissent. Quel est mon avenir dans un contexte professionnel aussi précaire? Ne renonçons pas à nos rêves de gosse. Exigeons d'être mieux payés. Réclamons la hausse du salaire minimum.
La première cible des manifestants, ce sont les buraku kigyo, en français, les entreprises noires. Celles qui infligent, outre de très bas salaires, des conditions de travail indignes à leur personnel. C'est souvent le cas dans les konbini, ces supérettes de quartier ouvertes 24 heures sur 24.
Ils nous font travailler comme des dingues, depuis l'aube jusqu'à tard le soir, et souvent même pendant des nuits entières. Pourtant, ils nous payent si mal qu'on ne peut jamais mettre le moindre yen de côté. On n'arrive même pas à boucler nos fins de mois. Mais enfin, ce n'est pas une vie, ça. Collègues des konbini, ça ne peut plus durer. Faisons tous entendre notre voix.
Une voix qui est assez peu entendue. La dernière hausse du SMIC horaire a été de 25 yens, 20 centimes d'euros. 60% des Japonais âgés de 20 à 30 ans n'ont pas la moindre épargne sur leur compte en banque. 7 sur 10 ont besoin de l'aide financière de leurs parents pour survivre. Et à Tokyo, toutes les nuits, des milliers d'employés en sont réduits à dormir dans des cyber ou des manga cafés. Leur salaire ne leur permet pas de payer un loyer.
Un reportage signé Bruno Duval à Tokyo, Cynthia Kalasopatane. Vous avez retrouvé dans ce reportage beaucoup de choses que vous connaissez.
Ce que l'on voit dans les chiffres, c'est que c'est-à-dire ces contrats justement contrats non titulaires. Touche en particulier aussi les femmes, puisque justement, quand les femmes se marient ou quand elles ont des enfants, elles s'arrêtent de travailler. Et puis au moment où elles souhaitent revenir, la plupart du temps, c'est sous forme de contrats temporaires ou à temps partiel. Et en plus, il y a cette inégalité d'une certaine manière, puisque l'écart de salaire
entre hommes et femmes
est environ de 25%, c'est-à-dire une femme toucherait environ 75% du salaire d'un homme. Donc il y a en plus cet écart homme-femme, et en plus de ça, il y a cette précarisation, en tout cas au niveau de l'emploi, qui touche en particulier les femmes qui reviennent au travail, qui sont majoritairement sous forme de contrats non titulaires.
Gilles Dufresneau, c'est important ce phénomène de la précarité au Japon ?
Alors c'est très important parce que ça traduit la remise en cause d'un compromis social qui avait caractérisé les Trente Glorieuses, puisque justement les Trente Glorieuses, c'était l'emploi à vie, c'était essayer de construire une certaine harmonie entre salariés et patrons. Tout ceci a été remis en cause par la mondialisation et la nécessité d'être compétitif. Et ça va conduire les grandes entreprises à mettre en concurrence les sous-traitants. Il faut bien comprendre que le phénomène de sous-traitance accélère en fait ce phénomène de précarité, parce qu'il faut serrer les coûts. Et donc par rapport à ce qui vient d'être dit, bien sûr les femmes sont touchées, mais vous avez aussi une très grande précarité chez les seniors. Et donc vous avez une augmentation de la précarité. Il y a un effet corollaire qui est que en termes de pauvreté, c'est une des explications au fait que la pauvreté a augmenté au Japon. Vous avez aujourd'hui environ à peu près 16% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est totalement inattendu de la part d'un pays comme le Japon.
Mais alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas, que vous allez peut-être pouvoir m'expliquer tous les deux. Dans ce marché du travail, vous avez un marché qui est en tension, où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, on s'attendrait à ce que les travailleurs aient le moyen de négocier des salaires élevés. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de salaire élevé? Est-ce que c'est la réponse du côté employeur, c'est de créer de la précarité pour éviter d'avoir accordé des hausses de salaire?
Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, bien sûr, il y a des syndicats au Japon, mais le mode de, les syndicats ne fonctionnent pas nécessairement comme en Europe. C'est-à-dire que le syndicat est là pour produire plutôt du consensus. Et puis, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la logique de la mondialisation fait qu'on doit tirer les coûts vers le bas pour que les entreprises restent compétitives. Donc, bon, selon moi, c'est un des facteurs explicatifs.
Le rôle des syndicats est une des explications de...
C'est que le syndicat n'a pas le même... les syndicats ne sont pas là pour revendiquer comme on peut le faire en Europe, etc. Le syndicat... la syndicalisation s'est développée pendant la période des Trente Glorieuses pour essayer de construire du consensus au sein de l'entreprise. Et ce modèle-là est remis en cause, me semble-t-il.
Cynthia Kalasopatane.
Alors, juste pour ajouter donc quelques compléments. Donc au mois de mars, traditionnellement, c'est en tout cas au Japon, la vague cette séance de négociation au niveau des salaires, s'appelle le Shunto. Alors le gouvernement est tout à fait conscient de ce problème. En tout cas, le gouvernement Abe a depuis quelques années, demandé à ce que justement les entreprises à augmenter le salaire minimum, c'est-à-dire le souhait du gouvernement. C'est que les entreprises augmentent ce salaire de 3% par an. En plus, si les entreprises le font, c'est-à-dire il y a des crédits d'impôt. Or, on voit dans la réalité que ça n'a pas tout à fait été le cas. C'est-à-dire les entreprises restent quand même prudentes, même si aujourd'hui il y a cette pénurie de main-d'œuvre, elles restent prudentes et l'augmentation de salaire ne s'est pas faite à 3%, mais plutôt autour de 1,5%, 2,5%. Donc même si effectivement depuis 2012 il y a une augmentation du salaire, mais elle se fait pas aussi vite que on l'aurait souhaité.
Gilles Dufresneau.
Oui, juste pour compléter, effectivement, c'est que ces augmentations de salaire, elles sont faites principalement par les grandes entreprises. Or, on sait que une grande partie du tissu productif japonais est fait des PME, un petit peu comme en France, quoi. Donc, effectivement, c'est difficile pour les entreprises de jouer le jeu parce que les PME, justement, ont beaucoup moins de marge de manœuvre que les grandes entreprises.
C'était Codici Eco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de l'économie japonaise avec deux invités, Cynthia Kalasopatan, économiste chez Rexecode, et Gilles Dufresneau, professeur d'économie à l'université Aix-Marseille. Restons sur ce marché du travail japonais, sur cette dualité. On ne voit pas trop comment le gouvernement peut résoudre, d'après les indications que vous nous donnez, cette espèce de quadrature du cercle qui est d'un côté un marché du travail en tension avec une pénurie de main-d'œuvre et de l'autre une précarité accrue, de la pauvreté. Quels sont les projets gouvernementaux, Cynthia Kalasopatan?
Si je peux juste rajouter un élément par rapport à toute cette, c'est-à-dire à ces mesures justement que vient de prendre le gouvernement. Alors, décembre dernier, le gouvernement a approuvé la possibilité d'embaucher des travailleurs étrangers, c'est-à-dire au cours des 5 prochaines années. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le nombre de travailleurs étrangers au Japon est estimé à environ 1,5 million, dont une grosse partie étant composée d'étudiants, de stagiaires, mais de travailleurs qualifiés ou voire même de travailleurs pour remplir, enfin en tout cas pour combler cette pénurie de main-d'œuvre, il y en a très peu. Donc il y a eu une prise de conscience que malgré tout il faudrait aller vers cette voie, même s'il y a eu quelques réticences, enfin en tout cas jusqu'à présent. Alors ça reste certainement ce sera pas la solution pour combler cette pénurie de main-d'œuvre, mais en tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Il y a environ 345 000 travailleurs étrangers qui devraient arriver au Japon, notamment dans les secteurs où il manque cruellement de main-d'œuvre, c'est-à-dire dans le secteur de la santé, de la construction, agricole.
C'est des gens qui viennent d'où? Qui viennent d'Asie?
Qui viendraient a priori d'Asie, mais en tout cas, qui répondrait à certains critères bien particuliers, c'est-à-dire ils doivent parler un petit peu japonais pour pouvoir avoir ces visas. Donc ça reste aussi d'une certaine manière assez contraignant pour résoudre le problème de pénurie de main-d'œuvre.
Gilles Dufresneau.
Oui, alors c'est des gens qui viennent des Philippines. Il y a beaucoup de gens qui sont recrutés dans le domaine des services aux personnes âgées, des étudiants chinois, effectivement. Alors une des mesures qui est aussi également prise, c'est de faire reculer l'âge du départ à la retraite et l'âge à partir duquel les Japonais peuvent toucher leur retraite. C'est une façon de maintenir sur le marché du travail de manière plus durable les personnes âgées. Alors ça, c'est tout ce dont on est en train de parler, c'est des mesures structurelles.
Venons-en aux abénomics, cette politique gouvernementale mise en place par le Premier ministre Shinzo Abe depuis 7 ans.
Tout à fait.
Depuis qu'il est aux manettes.
Tout à fait. Alors, l'idée est la suivante. L'idée, c'est que le problème de l'économie japonaise, c'est que c'est une économie qui, au fur et à mesure du temps, voit sa croissance potentielle diminuer et, évidemment, est également confronté à un problème de déflation. Alors, pour essayer de contrer ça, le gouvernement a mis en place ce qu'ils ont appelé les trois flèches. Donc, Abenomics, c'est ça. C'est une politique budgétaire très expansive, très vigoureuse, qui conduit à des problèmes d'endettement public très élevés. Une politique monétaire également très, très expansive. Et puis, des politiques structurelles, des transformations structurelles pour essayer de soutenir la croissance potentielle.
Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ces trois flèches? Est-ce que vous pourriez les détailler?
Alors, la première flèche, la politique budgétaire, elle est assez simple, c'est qu'une économie ne peut avoir de la croissance que si dans un pays, la demande agrégée est soutenue. Il faut savoir que les Japonais, par tradition, donc la demande privée a tendance à être faite parce que les Japonais épargnent beaucoup. Et donc, la façon de contrer cela, c'est que ce soit le gouvernement qui dépense. Donc,
donc des dépenses publiques.
Donc, des dépenses publiques extrêmement élevées. qui sont financés à coût de dette publique très élevée. La dette, le ratio de la dette publique du Japon, c'est environ 240%.
C'est énorme.
Aujourd'hui, c'est énorme, mais c'est pas un problème pour le Japon parce que cette dette est principalement détenue par des institutions japonaises. Il y a un nationalisme japonais qui fait que la Banque centrale du Japon, les banques, les assurances ne mettront pas en faillite l'État. Donc, ils ont une marge de manœuvre très importante du point de vue budgétaire.
C'est-à-dire même si effectivement il y a cette dette qui représente aujourd'hui environ, comme vous l'avez dit, 245% du PIB, il faut savoir aussi que du côté des actifs, le Japon dispose aussi une grosse part d'actifs, d'actifs placés à l'étranger, qui font que finalement, même si cette dette doit être consolidée, bien sûr c'est une des priorités aussi pour le gouvernement Abe, notamment.
Une dette consolidée, ça veut
c'est-à-dire
dire
il faut réduire la part de, enfin en tout cas ce pourcentage, elle est pas soutenable à long terme. Donc une des mesures justement dans le cadre des Abenomics, c'est d'augmenter le taux de TVA qui va se faire cette année, donc
au
en octobre, donc de relever le taux de 8% à 10%, justement pour élargir l'assiette fiscale et générer plus de revenus et pour pouvoir justement réduire ce déficit budgétaire et à terme réduire la dette publique.
Alors ça c'est la première flèche. Et la
deuxième flèche, politique budgétaire. Il faut comprendre quelle politique monétaire, excusez-moi. Le Japon a été précurseur dans ce que on appelait les politiques quantitatives, qui ont été appliquées par les pays européens,
par les
États-Unis, etc. Au moment de la crise de 2008.
Oui, ce qu'on appelle le quantitative easing. Oui.
Mais c'est quelque chose qui a été mis en place par les Japonais bien avant, parce qu'ils ont vécu cette crise bancaire et qui aujourd'hui renforcé.
Donc pour expliquer les choses simplement,
inondé en fait l'économie de liquidité de telle façon à faire baisser les taux d'intérêt, parce que les taux d'intérêt représentent le coût du crédit tout simplement. Et donc ça c'est quelque chose vraiment une politique que les Japonais vraiment actionnent.
Donc les taux d'intérêt au Japon
sont très bas, ils sont très proches de zéro voire négatifs.
Depuis combien de temps?
Depuis longtemps.
2014.
Voilà, tout à fait, depuis très longtemps.
Et donc la troisième flèche, c'est les réformes.
Alors c'est les réformes structurelles pour essayer de l'idée du Japon, c'est que il faut mixer les politiques macroéconomiques avec des politiques de réorganisation industrielle qui permettent de maintenir et d'augmenter la productivité au Japon. Donc ça peut passer par des réformes du marché du travail, par exemple. Il y a une grande flexibilité du marché du travail. Bon, mais ça peut passer par d'autres mesures.
Ces réformes structurelles, est-ce qu'elles fonctionnent vraiment?
Je pense qu'il faudra attendre un peu de temps pour savoir si elles fonctionnent vraiment. On peut répondre pour les politiques budgétaires et monétaires qui produisent leurs effets, bien entendu. Mais sur la troisième flèche, dans la mesure, ce sont plutôt des politiques structurelles, donc de fond, de moyen long terme. À mon avis, il faudra attendre un petit peu.
Quand est-ce qu'on verra les résultats, Cynthia Kalos-Sobotan?
Alors, en tout cas, les réformes structurelles, ça prend du temps. Par exemple, juste pour parler sur le code de la gouvernance qui avait été écrit en 2015. Il a fallu attendre juin 2018 pour que justement ce code entre en vigueur. Alors, code de la gouvernance justement pour les entreprises, justement pour ces structures croisées au niveau des actifs, c'est-à-dire les entreprises s'achètent des actifs financiers entre elles et ce qui pose cette question de gouvernance, donc pour éviter les conflits d'intérêts. Donc il a fallu 3 ans pour que ça rentre en vigueur. Donc exactement de la même manière, les réformes sur le marché du travail, il y a des mesures, mais après d'une part, oui, on met les mesures, mais d'autre part, il faut aussi que les entreprises les appliquent. C'est-à-dire le gouvernement peut dire OK. On encourage, par exemple, l'augmentation de 3% de salaire minimum. Et si vous le faites, on vous donne des crédits d'impôt. Encore faut-il que les entreprises suivent cette mesure. Par exemple, les entreprises, le gouvernement demande à ce qu'il y ait plus d'égalité entre les travailleurs titulaires et non titulaires. Mais c'est quelque chose que les entreprises doivent mettre en place. Donc, il y a aussi cette difficulté de la mise en application des mesures qui peuvent être préconisées par le gouvernement.
Gilles Dufresneau.
Oui, alors moi je trouve que Abénomics c'est quelque chose de très bien parce que ça peut donner, c'est un petit peu le miroir de ce que l'Europe pourrait faire, parce que l'Europe, elle, a choisi au contraire d'avoir des politiques budgétaires assez restrictives pour ce qui pose en soi pas de problème. Si on considère la dette au niveau de l'Europe, c'est pas du tout un problème. Bon, mais l'Europe n'a pas choisi du tout cette approche-là. Donc Abénomics c'est assez intéressant parce que l'idée c'est que si on veut vraiment soutenir une économie, essayer de la faire décoller, essayer d'augmenter le niveau de vie des Japonais qui a considérablement baissé, il faut ouvrir les vannes de tous les côtés, c'est-à-dire
budget, c'est ce qu'on appelait ouvrir les vannes, ça, ouvrir veut dire les vannes ça veut dire s'ouvrir sur l'international aussi,
ça veut dire bien sûr s'ouvrir sur l'international, mais bon, le Japon a traditionnellement une politique tournée vers les exportations. Naturellement, le vrai problème du Japon, c'est en interne, il faut essayer de stimuler la demande interne, soutenir l'investissement, faire en sorte que les entreprises investissent et faire en sorte que le secteur privé et le secteur public dépensent. Donc ça, c'est quelque chose d'important.
Vous voyez, alors, vous dites, Gilles Dufresneau, que le Japon est traditionnellement, et on l'a vu à travers ce que vous nous avez dit tous les deux depuis le début de l'émission, ouvert vers l'extérieur, vers les exportations. Quelle est la relation entre le Japon et la Chine? Parce que voilà un concurrent, un collègue, un géant, un autre géant économique qui surgit dans la même région. Est-ce que le Japon et la Chine coopèrent? Est-ce que la Chine est aidée par les Japonais à décoller, à se développer, Cynthia Kalasopatam?
Oui, je dirais qu'il y a une relation quand même très forte sur le plan économique entre la Chine et le Japon. Juste pour vous donner, au niveau des chiffres, le Japon, enfin les exportations japonaises vers la Chine représentent environ 20% des exportations totales du Japon. Donc, ce sont surtout, il s'agit surtout des produits électroniques et la Chine de même a une relation économique assez forte avec le Japon, où ça représente environ 10% de ses exportations. Il y a aussi une relation sur le plan des investissements directs. Le Japon, sur l'ensemble de ses investissements directs en Asie, il y a environ 40% qui est alloué vers la Chine. Et au niveau du secteur touristique, vous avez aussi une grosse partie il y a un essor en tout cas du tourisme chinois vers le Japon. Donc il y a quand même cette relation quand même importante sur le plan économique.
Gilles Dufresneau, la Chine et le Japon, c'est deux alliés ou deux concurrents?
Alors, la Chine et le Japon, c'est l'équivalent de l'Allemagne et de l'Angleterre avant 1914. C'est-à-dire que ce sont deux pays qui sont extrêmement liés sur le plan commercial. Un premier partenaire, premier fournisseur, premier client, etc. Premier point. Deuxième point, il ne faut pas oublier que la Chine doit une partie de son développement au Japon. Entre 1980 et 2018, il y a beaucoup de transferts de technologies qui ont été faits à la Chine par le Japon. Ils ont massivement investi dans les infrastructures, dans la formation des ressources humaines. Bon, ça, c'est le deuxième point. Mais il y a un point noir qui est le conflit géopolitique et en particulier toutes les questions de souveraineté sur les îles. Alors là, vraiment, c'est un point noir qui... C'est pour ça que je dis que on peut penser à l'Angleterre et à l'Allemagne avant 1914.
Oui, c'est pas très rassurant comme comparaison.
Mais malheureusement, c'est ça.
Alors
c'est
qu'on sait que la Chine et le Japon, ça n'a pas toujours été très rose, leur relation,
alors,
c'est le moins qu'on puisse
dire.
Alors
ça, c'est l'autre élément de nature historique, puisque le Japon était la puissance coloniale jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était la puissance coloniale en Asie.
Et qui s'est signalée ensuite par des exactions sur lesquelles
tout à fait.
On n'en revient pas ici, mais on pourra en parler dans d'autres émissions de RFI. Alors, vous parlez de points noirs dans les relations Chine-Japon. Il y a un autre point qui est un point commun, c'est l'intérêt pour l'Afrique. Depuis 1993, le Japon s'est lancé dans le soutien aux économies africaines avec un organisme appelé en anglais le TICAD, en français c'est la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. L'un des axes de l'aide japonaise, c'est l'agriculture. Au Kenya, par exemple, la coopération nippone tente de développer la riziculture en transmettant le savoir-faire japonais en la matière. C'est important parce que les Kenyans consomment de plus en plus de riz, 800 000 tonnes l'an dernier, seulement 30% produites dans le pays. Le reste est importé, d'où le projet japonais Rice Map, lancé en 2012 à Mwea, la région névralgique de la riziculture au Kenya, à 2 heures de route à l'est de Nairobi, la capitale kenyane. Alors direction Mwea pour un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Charlotte Simonard.
Des rizières à perte de vue, des travailleurs accroupis dans leurs champs. Ici à Mwea, au pied du mont Kenya, la riziculture a déjà près de 70 ans. Au bord de son champ, John Yamu, il fait partie des 1500 bénéficiaires du projet Rice Map.
On a suivi une formation. Les nouvelles techniques de production consistent à planter en rangée, à irriguer par intermittence et à améliorer le désherbage. Cela permet d'économiser l'eau et de pouvoir en faire bénéficier à plus de fermiers car à Mwea, l'eau vient à manquer. Ces techniques ont permis d'augmenter mes profits. Avant, ma production était de 25 000 kilos par hectare. Aujourd'hui, je produis 5 tonnes de plus.
À Mwea, 6 000 fermiers cultivent du riz. Un fermier sur 5 est désormais formé aux techniques japonaises. Objectif, augmenter la productivité de la riziculture kenyane. Juma Mohamed est l'un des managers du projet Rice Map.
L'objectif du projet est de réduire les importations de riz. L'approche de Rice Map est une approche de collaboration entre les fermiers. Nous choisissons des fermiers, ils suivent une formation et ensuite ils choisissent 5 de leurs voisins qu'ils forment à leur tour.
John Yamu, depuis sa formation, bataille pour convaincre ses voisins d'adopter ces nouvelles techniques de production.
Avant, on répandait à la main le plus de graines possible sur notre champ. Avec cette technique de plantation en rangée, il y a effectivement de l'espace entre les lignes et entre chaque plant, ce qui leur permet de grandir mieux. Mais beaucoup de fermiers pensent que l'on gaspille la terre. C'est difficile de les convaincre.
Parmi les convertis, il y a Simon Maina Mungé, 61 ans, riziculteur depuis 50 ans. Avant lui, son père a participé à la construction du système d'irrigation des champs de Mwea, alors prisonnier des colons britanniques. Aujourd'hui, Simon est totalement convaincu par les techniques japonaises de production.
J'ai complètement changé de technique grâce à ce que j'ai appris. Planter en rangée, c'est bien mieux. La production augmente, mes bénéfices aussi. Aujourd'hui, le travail est plus facile qu'avant et ce, pour chaque tâche que nous faisons. Je n'ai plus de problème de dos. Avant, on faisait tout à la main.
Les Japonais ont effectivement fourni 80 machines pour récolter et planter le riz. Le projet Rice Map s'achève cette année ici à Mwea, mais il devrait perdurer grâce à la transmission des techniques. Le même projet sera lancé prochainement à Kisumu, dans l'ouest du pays.
Un reportage signé Charlotte Simonard dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI, où nous parlons donc du Japon avec deux invités, Gilles Dufresneau et Cynthia Kalasopatane. L'Afrique, c'est important pour le Japon comme ça l'est pour la Chine. Est-ce que les deux pays comptent autant sur les matières premières africaines, Gilles Dufresneau?
Oui, donc il faut comprendre quelque chose, c'est qu'on parle beaucoup de l'investissement, des investissements de la Chine en Afrique. Le Japon est aussi très actif pour trois raisons. La première raison est une raison géopolitique, parce que le Japon souhaiterait compter au niveau international, avoir un siège permanent à l'ONU, et donc il a besoin du soutien des pays africains, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le Japon essaie de devenir moins dépendant de la Chine. Il faut savoir que la plupart des matériaux, les écrans plasma, les panneaux solaires, etc., fabriqués par le Japon, le sont à partir de ce qu'on appelle des terres rares, et que ces terres rares lui sont fournies à 95% par la Chine. Et donc le Japon est dans une stratégie où il souhaiterait réduire cette dépendance à la Chine et avoir ces ressources-là existent aussi en Afrique. Donc c'est aussi quelque part une façon de sécuriser un petit peu, d'essayer de sécuriser l'approvisionnement en ressources naturelles. Et puis le troisième volet, c'est qu'il y a une réelle volonté de participer au développement de l'Afrique. Ce que moi j'ai trouvé tout à fait nouveau il y a quelques semaines en allant à Osaka, c'est que le Japon s'intéresse maintenant aux pays d'Afrique francophone. Ce qui est nouveau, il y a des tas de programmes.
C'est-à-dire pas simplement aux pays anglophones comme le Kenya.
Tout à fait. Bien sûr, on a parlé du Kenya, mais aux pays francophones, ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Avec un objectif, c'est vraiment d'augmenter les qualifications des ressources humaines. Donc là, on a parlé du secteur de l'agriculture, c'est vrai, mais ils sont très très offensifs aussi pour essayer d'augmenter les qualifications dans le domaine de la santé, par exemple. Il y a un certain nombre de programmes qui sont mis en place dans le domaine de l'énergie, des infrastructures, de l'accès à l'eau, etc. Donc, il ne faut pas oublier que le Japon est un partenaire très actif.
Juste pour rajouter sur le volet développement, il faut savoir que le TICAD, cette coopération entre le Japon, l'Union africaine et la Banque mondiale et les Nations unies, ça existe depuis les années 90, donc ce n'est pas une nouveauté japonaise. Il y a aussi cette volonté de développer, mais aussi il y a aussi cet aspect au niveau agricole, c'est-à-dire aujourd'hui le Japon n'est pas autosuffisant au niveau des biens alimentaires, c'est-à-dire le Japon importe des denrées, puisque cette agriculture japonaise aujourd'hui, n'est pas autosuffisante. La population qui cultive cette terre est en moyenne d'âge de 65 ans. Donc, compte tenu de cet effet vieillissement de la population, la surface en moyenne au Japon pour les surfaces agricoles, c'est 1 hectare. Donc, c'est pas...
Il faudrait révolutionner l'agriculture japonaise.
Alors, aujourd'hui, en termes d'espace, c'est pas suffisant. C'est 12% de terres agricoles qui peuvent être utilisées. Donc, aller vers l'Afrique aussi, c'est aussi peut-être une possibilité pour le Japon d'avoir des liens, des partenariats pour pouvoir après avoir accès à des produits agricoles. Gilles Dufresneau,
vous avez l'impression aussi que les Japonais veulent des terres africaines pour eux ?
Alors, c'est plus ambigu. Alors, autant les Chinois l'affichent très clairement, sans scrupule, autant du côté du Japon, c'est plus ambigu, dans le sens où on a d'un côté l'impression qu'effectivement, leur objectif, c'est de contribuer au développement de l'Afrique en étant un partenaire. Moi, je rappelle quand même quelque chose de très important, c'est que le Japon est un des premiers pourvoyeurs de fonds pour pour lutter contre toutes les endémies, les maladies infectieuses, etc., qui existent, pour des raisons historiques, parce que eux-mêmes, historiquement, ont énormément souffert de ça, donc il y a une certaine empathie. Bon, il y a ça d'un côté, et de l'autre côté, effectivement, ce qui est en train d'être dit, c'est que, comme les autres nations, l'Afrique est peut-être un des endroits où vous avez encore une surface agricole utile très importante par rapport à ce qui existe au Japon, et effectivement, ça peut être un moyen de pallier aux insuffisances. Voilà.
Alors, il y a une autre région qui s'intéresse à l'agriculture japonaise, c'est l'Europe, parce que il y a un accord de libre-échange qui a été signé entre l'Union européenne et le Japon récemment, en 2018, et qui déjà rentre en vigueur. Et parmi les produits qu'on évoque, il y a le bœuf de Kobe, qu'on pourrait bientôt déguster à prix quasiment coûtant en Europe. C'est important, cet accord bilatéral. On dit que c'est la plus grande zone de libre-échange au monde. Gilles Dufresneau.
Alors, regardons les choses, parce qu'au CEPI, ça a été très étudié. Donc, regardons les choses objectivement. Cet accord, il a surtout une portée symbolique. Le commerce
le CEPI,
entre
le
l'Europe,
centre de recherche, voilà, je rappelle, voilà, dont vous êtes membre.
Le commerce entre le Japon et l'Europe, c'est 1%. Les deux pays pèsent à eux de 30% du PIB mondial, mais le commerce entre eux, c'est 1%. Alors, pourquoi cet accord ? En réalité, c'est
rapidement,
un accord qui est très, très rapidement.
On approche de la fin de l'émission.
En quelques mots, ce que je veux dire, c'est que principalement la politique protectionniste qui est en train d'être développée par Donald Trump qui a donné cette impulsion. C'est un effet de signal simplement qui est envoyé aux États-Unis pour dire attention, faites attention, vous voyez, vos partenaires habituels peuvent s'organiser pour maintenir le commerce multilatéral. Mais fondamentalement, je ne suis pas certain qu'on voit tout de suite les effets de cet accord sur
Cynthia Kalasopatane, vous êtes d'accord avec cette vision en deux mots?
Oui, je partage. C'est effectivement un signal très fort pour le Japon. Et d'ailleurs, on a aussi vu l'autre accord qui est rentré en vigueur cette année. C'est l'accord transpacifique où le Japon a été vraiment le leader justement pour faire en sorte que cet accord tienne, puisqu'on se souvient que les États-Unis avaient décidé de quitter l'accord.
Les États-Unis de Donald Trump.
Voilà.
Alors, c'est le mot de la fin, Cynthia Kalasopatane. Cette émission est maintenant terminée. Nous avons voyagé au Japon, beaucoup. Merci à vous deux. Gilles Dufresneau, Cynthia Calasso-Patin d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous réécouter sur le site de notre radio www.rfi.fr ou sur votre téléphone portable via l'application de RFI que vous connaissez maintenant, Pure Radio. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.